Ah, bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'avais à cœur de lire ce texte en introduction parce que bien souvent, les gens que nous rencontrons, pour la plupart, c'est vrai que nous sommes au Seigneur, mais malgré tout, c'est important, il y a beaucoup de gens qui sont souvent à se dire « Mais s'il y avait un Dieu, pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et s'il y a un Dieu, il ne voit pas. S'il y a un Dieu, il n'entend pas. S'il y a un Dieu, il ne fait rien. » Et ça revient finalement à dire que, à confesser que ces gens-là croient que Dieu n'existe pas, tout simplement. Et par rapport à ce raisonnement, je réfléchissais et je me disais, mais est-ce que c'est parce que nous sommes aveugles que nous devons déduire que la lumière n'existe pas ? C'est tiré par les cheveux, peut-être vous allez me dire, mais est-ce que c'est parce que nous sommes sourds qu'il faut qu'on déduise que le son n'existe pas ? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est ce qui est écrit dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14. Si Dieu n'existe pas, pourquoi attacher autant d'importance à combattre quelque chose qui n'existe pas ? Et si à l'inverse, Dieu existe, plutôt que de se dire, de comparer Dieu, un Dieu qui existerait, de le comparer à une statue qui ne peut pas parler, qui ne peut pas entendre, qui ne peut rien faire, est-ce aussi le bon raisonnement ? Si on peut s'imaginer à tant soit peu que Dieu existe. Pourquoi se dire que c'est Dieu qui est loin de nous ? À la lumière de ce que nous venons de lire, j'aurais tendance à croire que ce n'est pas Dieu qui est loin de nous, c'est nous qui sommes loin de Dieu. Et il y a un grand travail à faire sur nous-mêmes pour essayer peut-être de comprendre pourquoi nous sommes si loin de lui, pourquoi justement on en arrive à se dire que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qui peut nous amener dans notre comportement à nous dire « mais Dieu, il n'a pas d'oreille » ou « Dieu ne me voit pas » ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on en arrive à être ce point éloigné de Dieu ? On vient de lire que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Christ. Et pourtant, il y en a des choses qui peuvent nous séparer. Je vous propose de faire une lecture dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on a un petit exemple. Au chapitre 3, et nous lirons les 10 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On a un exemple qui nous montre tout à fait la démarche d'un éloignement de Dieu. Et on comprend très très bien à travers ce texte que si Dieu est loin, c'est pas de la faute de Dieu. Relisez avec moi le dernier verset que nous avons lu, verset 9, on était au 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc ça sous-entendu qu'il parcourait le jardin vers le soir, mais tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, Dieu passait pour avoir un temps privilégié avec l'homme et la femme. Et comme tous les soirs, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu était là. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. C'est l'homme et la femme qui se cachent. C'est nous qui nous cachons. C'est pas Dieu qui est loin, c'est nous. Et quand je lisais cet exemple, je me disais, mais derrière quoi on pourrait être amené à vouloir nous cacher? On voit que là, Adam et Ève, ils vont se cacher où? Au milieu des arbres du jardin. Bon, ça va. Ils sont encore dans le jardin d'Éden. Ils sont planqués au milieu des arbres. Et je me dis que nous, des fois, même quand on est chrétien, quand on se retrouve en porte-à-faux avec Dieu, parce qu'il y a quelque chose que nous devons régler, que nous ne réglons pas, des fois, est-ce que nous ne serions pas tentés, nous aussi, de nous cacher? Derrière quoi est-ce qu'on pourrait se cacher? Est-ce qu'on pourrait se cacher derrière une vie de famille exemplaire? On a quelque chose à régler. Mais bon, on a une vie bien réglée, on a une vie de famille bien. Les gens qui nous voient tous les jours se disent « Ah là là, celui-là, celle-là, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle, j'aimerais être comme lui. » Et pourtant, cette personne est bien vue de l'extérieur, mais est-ce qu'elle est bien vue de l'intérieur par Dieu? Il y a quelque chose qui reste là, qui n'est pas réglé, et cette personne va être en train de se cacher derrière une vie de famille qui semble être bonne, derrière quelque chose qui semble être bon de point de vue extérieur, et pourtant, devant Dieu, il y a quelque chose qui reste là. Dans la Bible, dans le livre de Samuel, il est dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc je peux avoir une apparence qui est bien, je peux me cacher derrière une belle apparence, mais à l'intérieur, aux yeux de Dieu, c'est pareil. L'apparence, Dieu, il l'enlève, il voit au travers. Est-ce qu'on pourrait même se cacher derrière la religion? Eh oui. J'ai quelque chose toujours à régler, il y a quelque chose sur lequel je me sens en porte-à-faux avec Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, et bien je vais essayer de faire des bonnes œuvres, je vais donner de l'argent aux associations, je vais m'investir dans mon église, je vais faire des choses. Et pour autant, je ne règle pas ce qu'il y a à régler. Il y a quelque chose, peut-être dans ma vie de famille, avec mon épouse, il y a quelque chose, on s'est mis en colère, on s'est disputé, et je dois lui demander pardon, et derrière, je viens à l'église, je fais des choses, et je ne veux pas régler le problème. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Toujours la même chose, Dieu regarde au cœur. On peut essayer de se cacher derrière la religion. Alors ça, ce sont des petites choses. Et pourtant, on voit l'amour de Dieu. Qui appelle? Dieu parcourt le jardin dans l'heure du soir et il appelle. Dans le livre des Hébreux, il est écrit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Est-ce que vous croyez Regardons cette question, parce qu'elle est surprenante quelque part. Que dit Dieu ? Quelle est la première question que Dieu pose ? Où es-tu ? Est-ce que ça aurait pu être possible que Dieu ne sache pas où étaient Adam et Ève ? Qui peut se cacher devant Dieu ? C'est pas possible. Lisez le psaume 139, vous verrez bien. Dieu, on ne peut pas se cacher loin de sa face, c'est pas possible. Dieu sait où on se trouve, forcément. Mais alors pourquoi il pose cette question ? Est-ce que Dieu a dit, c'est pas bien ce que vous avez fait ? Il dit pas ça, il dit juste, où es-tu ? Est-ce qu'il parle fort ? Ça m'étonnerait. C'est pas écrit, mais quand on pose ce genre de questions, en général, on n'est pas en train de crier. Dieu, il est là, et il parcourt le jardin dans l'heure du soir. On imagine le jour qui tombe, c'est le moment calme, c'est le moment où les oiseaux s'arrêtent de chanter, etc., etc. C'est la fin du jour, et Dieu passe, et là, il y a une voix calme qui se dit, « Où es-tu ? Où es-tu ? Où est-ce que tu te caches ?» Le pire, c'est que j'entends des fois dans ma vie de tous les jours, des gens qui sont comme ça, qui réfléchissent et qui disent « Mais Dieu, il n'existe pas ». C'est comme des gens qui sont dans leur cachette et ils sont blottis dans leur cachette et ils se disent « Mais en plus, Dieu, il ne me voit pas. Je ne vois pas Dieu. » Mais forcément, tu es dans ta cachette. Tu es dans ta cachette, tu restes caché. Comment tu veux voir Dieu ? Dieu, il n'est pas dans la cachette. C'est pas Dieu qui est loin, c'est nous qui nous cachons. J'y reviendrai à ces questions. Il y a un autre exemple où il y a un peu question d'une cachette quelque part. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, on a une histoire qui est magnifique, où Jésus va intervenir dans une vie, la vie de quelqu'un qui était caché, on peut dire ça comme ça, il était caché, au fond de son trou, comme on dirait, dans sa caverne, et c'était même fermé à double tour parce qu'il y avait une pierre devant. Lazare, il était au fond de sa caverne. Il était mort. Il était mort. Au fond de sa caverne, Lazare, il était mort. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. On ne va pas tout lire. En reprenant verset 35, parce que c'est un verset que j'aime, moi, c'est un verset le plus court de la Bible, mais il est beau ce verset. Jésus pleura devant cette situation. Est-ce que Dieu se satisfait de nous voir au fond de notre trou ? Mais non. Jésus, il prie pour nous et il veut que nous soyons pour l'éternité près de lui. Il ne peut pas se satisfaire que nous soyons loin de lui. Après, Jésus a pleuré, après surtout parce que malgré le miracle qu'il allait faire, certains ne croiraient toujours pas en lui. Et ça, il le savait. Et il a aussi pleuré pour ça. Mais on voit aussi toute l'émotion que Jésus avait et le fait que Dieu ne se satisfait pas de notre situation où nous sommes cachés. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge, et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Une fois de plus, je repose la question, où est-ce que tu te caches ? Est-ce que tu es au milieu des arbres du jardin ? Ou est-ce que dans ta démarche de te cacher, tu allais encore plus loin ? Est-ce que tu allais te mettre derrière une caverne ? Te mettre dans une grotte ? Est-ce que tu as fait en sorte que personne ne vienne te troubler dans ta caverne ? Derrière quoi tu te caches ? Derrière quoi tu te caches ? Est-ce que Tu ne supportes pas le silence, alors tu te caches derrière ta musique. Parce que la musique t'empêchera de réfléchir, parce que le silence te trouble énormément, alors tu t'isoles. Est-ce que tu te caches devant ta télé ou devant ton ordi pour ne pas penser à tes problèmes de tous les jours? Est-ce que tu es perdu dans ta vie professionnelle? J'ai connu l'exemple de quelqu'un qui faisait exprès de rester tard au travail pour ne pas s'occuper de ses enfants en rentrant. Alors, à son travail, ils étaient contents. « Ah, cet homme-là, il travaille bien, il est consciencieux. » Mais non, il fuyait le quotidien. Il se cachait dans son travail. Est-ce que ça va encore plus loin? Est-ce que tu te caches derrière l'alcool, par exemple? Combien de personnes nous entourent et se cachent dans l'alcool? Moi, il y a des jeunes qui travaillent à côté de là où je travaille, justement, et voilà, leur sujet, c'est le soir d'aller faire la fête. Parce qu'ils ont besoin d'oublier. D'oublier quoi? D'oublier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se cachent dans leur caverne, et ils s'enferment toujours plus. Le problème, c'est que plus on se cache, et plus on s'enferme, et plus la mort est là. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit à Lazare? Et comment il le dit? Il cria d'une voix forte. Il y a des situations où on est tellement loin de Dieu que Dieu, pour qu'on puisse l'entendre, il est obligé de crier pour nous dire « Hey, sors de là, tu vas te faire du mal !» C'est pas en restant dans ces problèmes et en t'enfonçant toujours plus dans ta caverne que tu vas trouver la vie. Sors de là! Et Dieu, des fois, il est obligé de s'y prendre avec nous parce qu'on n'écoute pas. Quand il parle doucement, on n'écoute pas. Alors il est obligé de lever la voix et de nous dire « Attention, fais attention !» Sors de là où tu te mets, sors de ta cachette, parce que moi, ce que je veux te donner, c'est la vie. Ce que tu ne veux pas trouver, moi, je peux te le donner. Tu crois que je suis là pour t'enfoncer, mais non. Après, sortir de sa cachette, ça implique un certain effort. D'ailleurs, Lazare, pour sortir de sa cachette, il a dû en faire. J'imagine. Ça ne devait pas être facile pour lui de sortir de sa cachette. Il était bandé. Il était momifié, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. Donc sortir de sa cachette, il a dû se réveiller dans les bandes, j'imagine. Pour sortir de là, ça lui a aussi demandé un effort. Il n'est pas sorti tout de suite. Et j'imagine d'ailleurs les gens, pendant la scène, qui doivent se moquer de Jésus. Ah, vous avez vu, Lazare, il ne sort pas. Combien de temps il a mis à sortir? On ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Mais la question est là quand même. Des fois, on met du temps à... On prend des décisions entre le moment où on prend les décisions et le moment où les choses se font. Combien de temps Lazare a mis pour sortir, on n'en sait rien. Mais pour autant, il y a quelque chose d'important, c'est que Dieu, il nous appelle. Et il nous veut auprès de lui, c'est pour retrouver justement cette vie qu'il nous donne. Une fois de plus, entre ces deux passages, qui va au contact de celui qui est caché? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui fait ce premier pas d'aller vers nous pour nous appeler, pour nous interpeller. Avec Adam et Ève, il dit « Où es-tu ?» Avec Lazare, certes, c'est un peu spécial parce qu'il est mort, mais quand même, Jésus est allé de lui-même alors qu'il était mort, il aurait très bien pu ne pas y aller. Dieu nous veut auprès de lui. Prenons maintenant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Pourquoi on se cache? On se cache parce que dans notre corps, il y a le péché. Parce qu'on est, dans le péché, et le péché nous sépare de Dieu. À l'inverse du passage que nous avons lu tout à l'heure, le péché que nous avons va faire en sorte que nous allons nous cacher. Et c'est pas Dieu qui nous sépare, enfin, c'est nous qui nous cachons et c'est nous qui nous séparons par le péché qui est en nous. Au verset premier, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et pourquoi sa face nous est cachée? Parce que le fait de pécher, c'est nous-mêmes qui nous cachons, et en même temps, Dieu ne peut pas voir le péché. Donc sa face nous est tournée. Et ce sont vos péchés, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On peut essayer de faire des œuvres, on peut essayer de demander la grâce de Dieu. Si on ne demande pas pardon, Dieu ne pourra pas nous écouter. Quand on est dans une situation où on est dans le péché, la seule chose que Dieu peut accepter, c'est qu'on puisse avoir ce vrai travail au fond de notre cœur, de dire « Seigneur, pardon pour ce péché qui est là en moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin d'une délivrance. » C'est d'être honnête avec soi-même, avec son propre état, et de se dire « Oui, c'est vrai, je suis comme ça. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour m'en sortir. Seigneur, pardonne-moi. » Ça, c'est une démarche qui plaît à Dieu, et c'est une démarche qui peut nous permettre justement de nous retrouver devant lui. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, il est dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » La liste est longue, mais tout ça n'a qu'une seule racine, c'est le péché. Et le péché qui est en nous ne peut pas nous permettre d'être auprès de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce que nous lisons à la fin de ce même chapitre 59 d'Ésaïe ? Au verset 20, « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Pour qu'on puisse avoir les paroles de Dieu dans notre bouche, ça montre bien que ce qu'il désire, c'est nous parler. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons en cœur à cœur avec lui, pas que nous soyons dans notre cachette. Et déjà, 600 ans avant, Ésaïe annonçait la venue de Jésus-Christ qui allait mourir pour les hommes, pour tous les hommes. Lui qui était sans péché, qui va subir le châtiment éternel, qui va mourir sur cette croix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Dans Philémon, il y a une phrase que l'apôtre Paul écrit quand il s'adresse à Philémon en faveur d'Onésime. Et il dit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps ?» afin que tu le recouvres pour l'éternité. » J'espère que ce soir, c'est notre cas, que peut-être dans un temps de notre vie, nous avons été séparés de Dieu, même si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La preuve en est, c'est que Jésus est mort pour nous à la croix. C'est nous qui nous séparons, et c'est nous qui décidons de revenir auprès de lui, parce que nous allons décider de nous repentir. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. C'est ma prière. Et c'est certainement la prière que Jésus devait avoir, que nous soyons séparés de Dieu que pour un temps, afin qu'on puisse le retrouver pour l'éternité. Paul écrit aux Romains aussi au chapitre 8, « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Est-ce que ça pourrait être une intercession que Jésus-Christ a pour ceux qui sont perdus ? Il intercède pour nous. Jésus-Christ, lui-même, celui qui est venu sur la terre pour mourir sur la croix, pour qu'on soit sauvés, maintenant qu'il est au ciel, il prie pour chacun d'entre nous. Il intercède. Jérémie écrit dans les Lamentations, « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. » Celui qui est réconcilié avec Dieu n'a pas peur de la face de Dieu. Celui qui est réconcilié avec Dieu n'a pas peur de s'approcher de lui. Et il a bien compris que Dieu voulait son bien. Il a bien compris qu'il était important qu'il y ait un temps de proximité avec Dieu chaque jour, parce que Dieu a tellement de choses à nous donner, il a tellement de choses à nous dire. Il veut être près de nous, comme Adam et Ève, tous les soirs, ils passaient. Nous, tous les jours, il veut nous parler, tous les jours, il veut être auprès de nous. Et tous les jours, il veut que nous puissions être auprès de lui. Seulement, quand nous avons des choses à régler, il faut les régler. Parce que sinon, c'est comme si on allait dans ses cachettes. Et moins on règle les choses, et plus on s'enfonce dans la caverne de Lazare. Jacques écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Alors si je lis que ça, c'est pas juste. Parce que derrière, il est écrit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Dieu ne peut s'approcher de nous que si on a cette vraie démarche de cœur, de vouloir faire la paix avec lui, de vouloir lui demander pardon pour ce qui nous sépare de lui. Il y a deux attitudes. Il y a celle d'être sincère et il y a toujours celle de s'enfoncer. Dans Isaïe, au chapitre 29, au verset 13, il est dit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Malgré tout ça, malgré la connaissance de toutes ces choses, on peut encore mal répondre à l'appel de Dieu. On peut s'approcher d'une mauvaise manière de Dieu. Et quand on s'approche d'une mauvaise manière, quand dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne va toujours pas et notre repentance n'a pas été sincère, on pourra essayer de faire comme si on s'approchait de lui. On reste dans une cachette, on reste caché dans notre religion, on reste caché loin de la face de Dieu. On ne peut pas être proche de la face de Dieu. Dieu nous appelle à faire la paix avec lui pour que nous ne soyons pas séparés de lui. Parce que lui a tout montré en venant sur cette terre et en mourant pour nous sur la croix. Il a tout montré. Il a montré l'étendue de tout son amour. Il a montré tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il a fait. Il a dit que tout était accompli sur la croix. Il n'y a plus rien à faire sinon que de croire que c'est vrai. Croire que ce qu'il a fait à la croix, c'est suffisant pour que nous puissions être sauvés. Combien de personnes croient qu'il faut en rajouter ? Tellement de personnes se disent « Mais non, ça ne peut pas être que ça. » Et si, Jésus, sur la croix, il a dit « Tout est accompli. » Il nous suffit de nous approcher simplement devant Dieu et de lui demander pardon. Je vais prier. Et peut-être que quelqu'un est dans cette situation. Peut-être que quelqu'un a besoin de s'approcher de Dieu, mais d'un cœur sincère et vrai. Peut-être que quelqu'un parmi nous ce soir a besoin d'avoir cette démarche, de sortir de sa cachette, de sortir de ta cachette. Alors que les têtes sont baissées, que chacun puisse réfléchir. Toi qui n'es pas en paix avec toi, toi qui restes terré dans ta cachette, est-ce que tu répondras à cette question que Dieu te pose ? Où es-tu ? Ce soir, il ne crie pas, parce que tu peux être en mesure de comprendre ce qu'il te dit et de répondre à cet appel. Où es-tu ? Est-ce que tu es dans ta cachette ? Ou est-ce que tu es prêt à aller rencontrer Dieu ? Est-ce que tu es prêt à t'avancer devant Dieu ? Est-ce que tu es prêt à prendre position et à lui demander pardon pour la situation que tu ne règles pas et prendre dès maintenant la décision de régler ce qu'il te reste à régler. Tu peux faire cette prière dans ton cœur. Je ne suis pas obligé de te faire lever la main. Tu peux le faire en faisant un acte de foi, mais ce qui est important, c'est que devant Dieu, parce que Dieu regarde au cœur, tu fasses cette prière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon. Seigneur, je décide, dès maintenant, de réparer. Seigneur, je décide d'aller trouver celui à qui je dois demander pardon et de présenter mes excuses et de corriger mon comportement. Seigneur, je regrette, je te demande pardon et je décide dès maintenant de réparer. Ça, Dieu le verra, parce qu'il voit dans les cœurs. Et cette démarche ce soir, honnête et sincère devant Dieu, profite de ces instants pour faire la paix avec Dieu et pouvoir retrouver cette communion que tu as perdue. Seigneur Jésus, je veux te prier. Tu vois dans les cœurs, tu as vu dans les cœurs, tu connais les pensées de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je te demande ta grâce pour que vraiment tu puisses travailler nos cœurs, Seigneur Jésus. C'est ton esprit qui travaille nos cœurs et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses susciter dans nos cœurs, Seigneur, ce désir de vouloir nous rapprocher de toi. Seigneur, si quelque chose nous sépare de toi, Seigneur, que nous puissions régler ce qu'il y a à régler, Seigneur, pour enfin nous retrouver près de toi, dans ta présence, Seigneur Jésus, à l'ombre de tes ailes, Seigneur, caché, mais sous tes ailes, Seigneur Jésus, parce que tu nous protèges. Tu es ce refuge, Seigneur, là où nous pouvons être, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Amen.